Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Maëlys André, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Suite de notre série consacrée à la police, hier nous parlions des violences policières en contexte de manifestations alors que les manifestations des gilets jaunes continuent de faire des victimes. Demain on s'intéressera à la corruption et notamment au Mexique. Jeudi on parlera de l'état policier en Égypte notamment. Mais aujourd'hui place aux violences raciales des États-Unis à l'Afrique du Sud. La couleur de la répression, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Le quartier où on est maintenant est certainement le pire de Baton Rouge, le plus violent. Alors, moi et mes hommes, on patrouille ici tous les jours. Et plus souvent qu'ailleurs. Et ce n'est pas parce que c'est un quartier noir. C'est parce que c'est là qu'il y a le plus de crimes. C'est pour ça. Malheureusement, on pourrait penser qu'on cible particulièrement les noirs.
Notre ami a été tué en bas de sa porte alors qu'il apportait de la nourriture à ses enfants. Il n'était pas armé, il n'était pas en train de faire quelque chose de mal. Il a été tué parce qu'il était noir.
Tous les Américains devraient être troublés par cette fusillade. Elle est symptomatique des inégalités raciales qui existent dans notre système judiciaire.
Michael Brown, Freddie Gray, Eric Garner, Ramar Legraham, Stephen Clark, Alton Sterling, Jordan Edwards, la liste des Noirs ayant perdu la vie lors d'une bavure policière est tristement longue. Et souvent, la raison est aussi tristement évidente. Les Noirs sont considérés a priori comme coupables. Cette suspicion, a priori, s'est illustrée très récemment, en novembre 2018, avec l'histoire de Jamal Robertson, agent de sécurité noir, abattu par un policier alors qu'il avait neutralisé un forcené en attendant les forces de l'ordre. Il a vu un homme noir avec une arme et il l'a tué, avait rapporté un témoin de la scène du policier, à propos du policier incriminé. Ces dernières années, les États-Unis ont connu une recrudescence du nombre de personnes qui ont perdu la vie sous les balles de policiers. 987 personnes en 2017 contre 963 en 2016 et 995 en 2015. C'est en tout cas les chiffres du Washington Post. Parmi eux, 22% étaient des hommes noirs, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population. Aux États-Unis, la probabilité pour qu'un jeune afro-américain se fasse tirer dessus est 5 fois plus grande que pour un blanc. Alors comment comprendre la violence des policiers américains? La police américaine est-elle raciste? Ou faut-il aller chercher les racines de cette violence bien plus profondément dans les entrailles de la société elle-même? La brutalité policière ne serait-elle que le symptôme d'une tendance plus générale à maintenir les populations noires et les quartiers minoritaires dans la marginalité? Et comment régler le problème? La mixité raciale au sein des effectifs peut-elle changer les choses? Y a-t-il des exemples probants en la matière? Un certain nombre de questions sur lesquelles on se penche ce matin. Pour ce faire, deux invités avec nous. Audrey Célestine, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes membre du CERAPS, le Centre de Recherche Administrative, Politique et Sociale, et puis maître de conférence à l'Université de Lille. À vos côtés, Didier Combo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes chercheur associé à l'Institut des Amériques et puis auteur de cet ouvrage qui était paru chez Gallimard l'année dernière, Police américaine au pluriel. Et on reviendra justement sur la pluralité de ces polices. Il est très rare que la justice, on va commencer avec la justice, condamne des policiers dans des affaires de bavure. On a vraiment l'impression que les meurtres de jeunes afro-américains sont jugés avec une certaine clémence. C'est d'ailleurs l'acquittement d'un surveillant blanc qui avait tué ce jeune homme, Trayvon Martin, qui avait déclenché d'importantes mobilisations et ce fameux mouvement Black Lives Matter, on y reviendra. Mais il y a quelques jours, il y a un policier blanc de Chicago qui a été condamné à 7 ans de prison pour le meurtre d'un adolescent, Laquan McDonald, 17 ans, sur lequel il avait tiré à 16 reprises en 2014. Cet assassinat avait entraîné lui aussi plusieurs semaines de manifestations à Chicago. Est-ce que ce cas montre que les choses avancent sur le plan de la justice et qu'au fond, on n'est plus aussi clément dans les affaires de bavure policière? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une réponse judiciaire plus ferme aujourd'hui ou est-ce qu'il faut nuancer les choses? Qui veut commencer? Audrey Célestine?
Allez. Alors, je suis pas sûr que les choses avancent exactement partout dans le système judiciaire, parce que le problème il est vraiment complexe. Effectivement, dans le cas de Laquan McDonald, la condamnation il y a quelques jours a été une bonne surprise pour beaucoup de militants. La peine était considérée comme relativement faible, mais tellement plus grande et plus élevée que pour la plupart des cas, qu'effectivement ça a été considéré comme une avancée dans un contexte de Chicago dans lequel il se passe pas mal de choses en ce moment. mouvement autour des questions de réforme de la police et d'implication notamment des organisations communautaires dans ces réformes. Cela ne change pas que la mobilisation reste quand même assez intense pour ce qui est considéré comme voilà une attitude un peu systématique de la police, de violence plus grande, plus appuyée, de réponse plus quasiment épidermique, sans mauvais jeu de mots, avec les communautés afro-américaines aux États-Unis.
Didier Combeau, sur cette réponse de la justice, alors il y a l'affaire Laquan McDonald, mais il y a aussi une autre affaire dont on avait beaucoup parlé aux États-Unis, c'est celle de ce basketteur professionnel Thabo Sefolosha, qui avait été arrêté, violenté à la sortie d'une boîte de nuit. Il avait été inquiété par la justice pour obstruction et refus d'obtempérer. La justice lui avait proposé ce qu'on appelle un deal de justice, c'est-à-dire se mettre d'accord, et il avait refusé, et à la fin de son procès, il a obtenu gain de cause. Est-ce que ça veut dire, une fois encore, que la justice a avancé sur cette question des condamnations des bavures policières, ou est-ce que ce genre d'histoire, ce n'est bon que pour des basketteurs professionnels de la NBA, mais que pour les gens lambda, eh bien, les choses sont toujours les mêmes? La situation n'a pas changé.
Il y a une plus grande sensibilisation aux violences policières depuis quelques années, depuis en particulier l'émergence de Black Lives Matter, qui a mis en évidence ces violences par leur aspect racial. Il ne faut pas oublier que les violences policières ne sont pas seulement raciales. Si on prend le nombre de personnes tuées par la police, vous l'avez cité, autour de 1000 personnes par an, c'est énorme. Et donc ce n'est pas seulement un problème racial, c'est aussi un problème de violence. En ce qui concerne cette violence raciale, c'est aussi parce que les forces de police et l'action de la police a tendance à se concentrer sur les quartiers afro-américains. Et ces quartiers afro-américains ont tendance à s'enfoncer de plus en plus dans la criminalité et dans la violence. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte pénalisation. Donc, les jeunes hommes noirs se retrouvent très souvent en prison. Lorsqu'ils se retrouvent en prison et lorsqu'ils en sortent, ils ont du mal à trouver un travail, ils ont du mal à trouver un logement. Et donc, ils replongent à nouveau dans la criminalité. Et donc, il y a une sorte de cercle vicieux qui s'entretient. Alors, en ce qui concerne les condamnations, c'est toujours assez compliqué parce que il y a d'une part les statistiques et puis il y a d'autre part les cas individuels. Et lorsque un policier fait usage de son arme, ce que la justice doit prendre en compte, c'est le sentiment de ce policier de s'être retrouvé en danger ou bien qu'il y avait d'autres personnes en danger à ce moment précis. Et donc, il peut arriver que des policiers tuent quelqu'un qui n'est pas armé parce qu'ils pensaient qu'ils étaient armés. On cite souvent le cas de cet immigré guinéen, Amadou Diallo, dans les années 90 à New York, qui a été tué de 41 balles alors qu'il sortait son portefeuille de sa veste. Mais les policiers ont pris son portefeuille pour une arme. Et d'ailleurs, ils ont été acquittés.
Audrey Célestine, dans un premier temps, le policier à l'origine du meurtre de Laquan McDonald dont je parlais n'a pas été inquiété. Et finalement, ce sont les images de la caméra fixe de son véhicule qui avaient montré qu'il lui avait tiré dessus, alors que en apparence, il n'y avait pas de danger. Il avait même fini par lui vider son chargeur alors que le jeune homme était à terre. On voit que la question de l'utilisation des images vidéo permet là de faire reculer considérablement l'impunité. Je parlais de justice à l'instant. C'est vraiment une évolution très importante ces dernières années.
Alors c'est une évolution importante qui a ses limites aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de cas dans lesquels on a les images. Voilà, ça a l'air d'être totalement clair et évident, et ça ne change pas grand-chose, notamment parce qu'il y a toujours l'idée de qu'est-ce qui s'est passé juste avant, mais on ne voit pas tout. Enfin, il y a quand même tout un tas de questions qui se posent, notamment pour tout le système judiciaire, sur qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qui se passe avant, comment interpréter ces images. J'aimerais revenir sur plusieurs choses. Je pense que c'est important, juste effectivement, la majorité des gens qui sont tués par la police ne sont pas des minorités aux États-Unis. Ça, c'est effectivement un fait. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'une bonne partie de la mobilisation de Black Lives Matter est sur le mode démilitarisation de la police et qu'ils insistent. Parfois, quand on leur oppose « All lives matter », ils disent « Oui, d'accord, mais nous, ce qu'on pointe du doigt, c'est d'une part la surreprésentation des minorités, et en particulier des hommes noirs dans les personnes tuées ou sur lesquelles la violence de la police s'exerce. Et effectivement, il y a certains cas dans lesquels des gens, votre enfant, a aussi une chance de se faire tuer par là, parce qu'il y a une militarisation de la police. Donc nous, on se bat en parlant des vies noires, parce qu'elles sont de fait beaucoup plus proportionnellement sujettes à la violence, mais c'est une question qui concerne tout le monde, et ils ont vraiment cette capacité à passer leur slogan de la question raciale à un problème qui est beaucoup plus global et qui concerne la militarisation de la police, et qui effectivement est important. Une autre chose, c'est que sur le sentiment de menace de la police, et ça fait partie un peu de l'analyse un peu systémique qu'il peut y avoir à Black Lives Matter, il y a cette idée que le problème aux États-Unis, c'est la construction du corps noir comme étant menaçant, ce qui fait qu'il y a cette menace objective qui est la libre circulation de tout un tas d'armes, ou parfois pas libres, parfois pas des armes légales, mais qui existent dans certains quartiers, qui fait qu'il y a effectivement un sentiment de peur. Ce qui est interrogé, c'est mais pourquoi finalement a-t-on particulièrement peur des hommes noirs et la construction d'un corps racialisé et menaçant.
Et qui se fait pour le coup à l'extérieur, bien sûr, des institutions policières. C'est pas seulement une question liée à la police, ça c'est une évidence. Sur cette question des vidéos, Didier, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de police aux États-Unis qui sont équipées de caméras vidéo. Est-ce qu'on a vu une différence? Est-ce que le fait d'équiper les polices de caméras, est-ce que ça fait reculer les violences policières de manière générale et celles en particulier à destination des minorités?
Il n'est pas certain qu'il y ait eu un effet véritablement probant là-dessus. Mais comme toujours sur toutes les questions de police, il y a toujours des études qui vont vous montrer qu'il y a eu une évolution positive et d'autres qui vont vous montrer qu'il n'y a pas eu d'évolution ou une évolution négative. Mais cette question des images, elle est tout à fait centrale parce que...
Je vais poser la question autrement et je vous laisse poursuivre. Mais est-ce que les images modifient le comportement des policiers?
Oui, on peut le penser, oui, puisque ces images ont toujours le risque d'être publiées. Mais c'est assez complexe parce que, comme on le disait, ces images, on a l'impression de tout savoir lorsqu'on voit une image. Or, en réalité, c'est pas exact parce qu'une image est toujours filmée sous un certain angle, et donc ça ne permet pas toujours de faire la clarté sur ce qui s'est passé. Donc ça n'est pas une solution miracle.
Équiper une police de caméra vidéo, est-ce que c'est un choix politique? Est-ce que ça découle de d'évolution législative? Pourquoi?
Alors, c'est un choix politique dans la mesure où il y a des prises d'images de plus en plus fréquentes par les téléphones portables. Hein. La première occurrence de violence policière filmée, c'était au début des années 90, hein, cette affaire Rodney King. Mais les polices étaient quand même assez rarement filmées en action, tandis qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, ils sont très souvent filmés et ils sont filmés sous un angle qui n'est pas l'angle que du policier. Donc, on peut voir des choses sur une caméra, sur des images qui sont filmées par un témoin qui présente la scène sous un angle différent de ce qu'aura vu le policier.
Pardon, allez-y, je vous en prie.
Oui, je vais simplement dire un mot sur la condamnation des policiers. Il y a une plus grande sensibilité, mais ça n'est de toute façon certainement pas dans cette direction uniquement que le problème peut se résoudre. Parce que comme c'est un croisement de problèmes de violence et de problèmes de racisme, c'est plus sur la culture des policiers, sur leur formation. Les policiers, une étude montre qu'ils ont en moyenne 58 heures de formation au tir pour seulement 8 heures de formation à la désescalade des situations de conflit. Et donc, ils ont du coup, évidemment, plus tendance à avoir avoir recours à leur arme.
Oui, donc évidemment, ça, c'est très largement insuffisant, mais c'est vrai que ça change les choses. Audrey Célestine, d'ailleurs, le mouvement Black Lives Matter a beaucoup milité, justement, pour que les gens utilisent leur téléphone portable pour vérifier, contrôler le comportement des policiers. Alors, avec quels effets? C'est toujours le même problème, très difficile de savoir, mais c'est un élément sur lequel on travaille beaucoup, notamment dans ce mouvement Black Lives Matter.
Oui, alors effectivement, il y a un encouragement, un rappel de la légalité du fait de filmer des policiers. Hein, ça, c'est quelque chose qui est protégé. Enfin, ça fait partie des droits des citoyens de filmer. Et du coup, ça donne d'autres angles de vue parce que c'est vraiment ce qui permet, c'est la multiplication des images qui permet. Mais après, ça a jamais été le point central. C'est vraiment de rappeler aux gens, vous avez le droit de filmer. Et si vous êtes dans le coin, si vous voyez quelque chose qui a l'air de mal tourner, restez dans le coin parce que ça fait des témoins supplémentaires. Mais vraiment, le cœur de l'action de Black Lives Matter. Si tu vraiment dans une question de la réforme. Alors avec plein de tendances, on a à la fois une tendance qui est celle qui était indiquée par Monsieur Combeau, à savoir mieux former, avoir en gros mettre plus de sous pour davantage former la police. Mais c'est pas la seule direction qui est prise dans les revendications. Il y a aussi à l'intérieur de Black Lives Matter et à l'intérieur du mouvement pour les vies noires, qui est l'espèce de grosse coalition à laquelle appartient Black Lives Matter, un mouvement abolitionniste qui en gros dit il faut que la police intervienne moins dans nos communautés parce que de fait la présence policière est un problème.
Didier Combeau, dans votre livre « Police américaine au pluriel », vous rappelez dès votre premier chapitre qu'il existe aux États-Unis quasiment 18 000 polices locales. Donc en réalité, la question de la police aux États-Unis, c'est une question de police au pluriel. Et que, au fond, les moyens des policiers dépendent aussi beaucoup des ressources locales. Donc on a des villes, des comtés où les moyens sont relativement limités et où donc on a moins de policiers, où ils sont moins bien formés. Est-ce qu'on arrive à établir une forme de corrélation entre moyens policiers et violences policières, en particulier à l'égard des minorités? Et est-ce qu'on a des exemples qui montrent que lorsqu'on met plus de moyens, qu'on forme mieux les policiers, oui, on a moins de violence?
Là non plus, on n'a pas véritablement d'études probantes. Ce qui est certain, c'est que par le fait que les polices sont locales, les départements de police, c'est quelquefois une demi-douzaine de policiers. La police de New York, c'est 30 000 policiers. Donc, il est certain que les petits départements ont beaucoup plus de difficultés pour former leurs policiers que les départements plus grands. D'autre part, les polices sont financées localement. Donc, les villes les plus pauvres, où il y a le plus de problèmes sociaux et le plus de délinquance, sont aussi les villes qui auront les moyens les plus faibles pour à la fois en termes d'effectifs policiers, mais aussi en termes de formation, en termes d'encadrement. Donc cet aspect très local des polices est certainement une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de violence policière.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fédéraliser les polices américaines, donner des moyens plus globaux. Enfin, comment on fait concrètement?
Ça, c'est tout à fait inenvisageable de fédéraliser les polices. C'est constitutionnel, le fait que la police est une affaire locale. Alors, il faut voir l'échelon des États. Les États ont beaucoup plus de pouvoir, les 50 États, que l'État fédéral en termes de police. L'État fédéral, il a seulement la possibilité de subventionner les polices et donc d'influer sur leur politique en les subventionnant. Et puis, il a l'arme de la justice, puisque le gouvernement fédéral est le défenseur des droits qui sont garantis par la Constitution, et en particulier dans les questions de discrimination raciale et dans les questions d'usage abusif de la force.
Audrey Célestine.
Mais cette dimension locale, elle fait justement largement partie d'une espèce de cercle vicieux qui s'est installé dans un certain nombre d'endroits, à savoir que les moyens limités font qu'il y a aussi un certain nombre de dispositifs qui sont mis en œuvre et qui sont censés ramener un peu des sous, à savoir une tolérance zéro sur les... les petites infractions routières, sur les petits problèmes qu'il peut y avoir sur les voitures, et qu'on se rend compte que dans certaines communautés, on a, dans certains quartiers, certaines petites villes, on a des arrestations intempestives pour des choses absolument mineures et qui touchent de manière disproportionnée les populations les plus pauvres qui réparent moins leurs voitures, etc. Et du coup, on est aussi dans un contexte dans lequel on donne des amendes que les gens ne payent pas toujours, du coup elle retourne au tribunal, et on a du coup une criminalisation de tout un tas de comportements qui sont en fait assez mineurs, mais qui font que le rapport des citoyens afro-américains avec la justice, avec la police, sont extrêmement problématiques pour des choses qui en fait ne sont pas du tout de la grande délinquance, sont vraiment des délits mineurs. Et ça, c'est un des problèmes aussi, l'espèce de criminalisation de la vie quotidienne qui font que les rapports avec la police sont plus intenses, plus nombreux, et qu'il y a cette politique de tolérance zéro qui pousse la police à arrêter plus de gens pour faire plus de sous au niveau local.
Didier Combeau, en première approximation, on pourrait se dire que s'il y a un problème de racisme dans les polices américaines, il suffit de mettre plus de minorités, plus de noirs dans les effectifs, et on va régler le problème. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Et est-ce qu'on a des exemples qui montrent qu'effectivement, lorsqu'on met le paquet sur la mixité ethnique à l'intérieur des effectifs policiers, ça change les choses, Didier Combeau?
Eh bien non, ça ne suffit pas. On a des contre-exemples, hein, comme la police de la ville de Detroit, qui est majoritairement noire et qui est pourtant accusée de discrimination. Pour plusieurs raisons.
Hein, de discrimination raciale.
De discrimination raciale, oui, bien sûr. Et pour plusieurs raisons. Alors, on espère effectivement que si on a plus de policiers afro-américains, ils connaîtront mieux les quartiers. Si on a plus d'hispaniques, ils maîtriseront mieux l'espagnol et ils auront de meilleures relations avec avec les communautés. Et puis qu'ils auront une plus grande légitimité. Mais en réalité, lorsque les minorités rejoignent les départements de police, il y a quand même la culture des départements qui prend le dessus. Il y a ce besoin d'être accepté dans le département, d'être reconnu par ses pairs. Et donc, du coup, ça n'est pas aussi efficace qu'on pourrait le penser. Alors, il y a certains chercheurs qui ont avancé la notion de seuil critique, qui ont dit quelques représentants des minorités, ça n'est pas suffisant, il faut qu'il y en ait un nombre suffisant. Mais le nombre d'Afro-Américains dans les polices a beaucoup augmenté. Hein. On est à peu près à 12% globalement dans le pays en ce moment.
Ce qui est à peu près la proportion d'Afro-Américains dans la société.
Oui, mais par contre, c'est pas la proportion des Afro-Américains dans certains quartiers. Donc si on prend le cas de Ferguson, par exemple, là, il y avait, je crois, 11%
C'est le chiffre que j'ai aussi.
Et qui était Afro-Américain, mais dans ce quartier-là, il y avait 67% de la population qui était Afro-Américaine. Donc il y a aussi une question de répartition encore une fois, on est dans l'aspect local. Quelle est la composition locale de la population et quelle est la composition de la police locale?
Audrey, c'est sur cette question de la mixité raciale. Didier Combeau nous dit ça règle pas tout, d'autant que lorsqu'en fait des Afro-Américains intègrent la police, ils intègrent aussi une forme de culture de la discrimination sociale et raciale aussi.
Et effectivement, ça ne suffit absolument pas. On voit que la mort de Freddie Gray qui avait provoqué les émeutes de Baltimore, 3 des 6 policiers impliqués sont noirs, une bonne partie de la gouvernance de la ville était afro-américaine, le président de la République à ce moment-là était afro-américain, et on se rend compte effectivement que ça ne suffit absolument pas, à la fois pour les éléments qui ont été cités précédemment, et plus précisément parce que quand on a une appréhension du racisme comme quelque chose qui est beaucoup plus systémique, qui relève pas uniquement de l'appréhension personnelle ou du préjugé personnel, mais qui est produit de manière vraiment collective, comme avec certaines personnes sont menaçantes, etc. C'est quelque chose qui fait partie également des représentations des policiers afro-américains. Et voilà, c'est dans plein de cas, en fait, des policiers afro-américains sont impliqués dans ces situations. Et il y avait un article ou un rapport il y a quelques mois qui disait qu'une bonne partie des policiers afro-américains, quand ils sont en civil, ont eux-mêmes peur de la police. C'est-à-dire qu'il y a une conscience quand même assez forte du fait que on va représenter un corps menaçant à son tour.
Oui, et puis on parlait de culture de la discrimination, il y a aussi une culture du silence suite à l'affaire Laquan McDonald dont je parlais tout à l'heure. Le ministère américain de la justice avait lancé une enquête sur la police de Chicago et l'enquête a conclu que les abus y étaient récurrents et qu'ils étaient protégés d'une certaine manière par une forme de code du silence. Donc il y a ça aussi qui existe. Si on reste un peu sur cette question culturelle, Didier Combeau, il y a un élément de votre livre que je voudrais qu'on démêle ensemble. Parce que vous vous penchez, vous, sur la question plus générale de l'augmentation des homicides, au-delà des homicides produits par des policiers, et vous évoquez le nom de Barry Latzer, qui est un criminologue américain, qui avance, lui, cette dimension culturelle. Vous écrivez à propos de Barry Latzer, dans un ouvrage récent, Barry Latzer pointe le fait que les Afro-Américains auraient importé dans les villes du Nord et de l'Est le code d'honneur des Blancs du Sud, qui conduit volontiers du simple différent à l'homicide. Si je comprends bien, si on tue aussi facilement aux États-Unis, c'est à cause des Noirs qui, imitant les manières esclavagistes, ont diffusé une culture de l'homicide?
Oui, enfin c'est une des interprétations qui existe. Ouais, mais effectivement, il y a dans le sud des États-Unis une culture de violence qui n'est pas la même que la culture du Nord. Le sud des États-Unis traditionnellement c'est une culture assez aristocratique, beaucoup moins en quelque sorte démocratique que le Nord des États-Unis. Et il y a cette culture d'honneur qui existe. Et effectivement, chez les Blancs, hein, pas particulièrement chez les Noirs,
mais qui aurait été récupérée par par les Noirs, c'est ce qu'il dit.
Effectivement, sa théorie est que
étonnante, hein.
Et que ça a été bon. C'est une manière d'expliquer que les Noirs seraient peut-être plus violents que les Blancs. Il faut l'apprendre avec précaution.
Avec précaution. Sur un point, ce qui est important également,
ça en dit long, pardon, sur justement la construction de l'homme noir comme une menace a priori, justement, cette manière de voir les choses.
Et ça, c'est effectivement.
C'est un criminologue très très connu et réputé aux États-Unis. Hein.
Ouais, tout à fait. Mais après, expliquer les choses par la culture des Afro-Américains est un sport national depuis plusieurs siècles. Mais sur les personnes qui sont effectivement les plus confrontées et à la police et au système judiciaire, c'est vrai qu'il y a une partie des affaires qui ont été très médiatisées, Trayvon Martin, etc. C'est pas des gamins qui vivaient particulièrement dans le ghetto. Donc ça, c'est des affaires qui sont médiatisées parce qu'on voit, on se rend compte que finalement la classe en fait n'est pas si importante que ça. Pour autant, quand on regarde quand même dans les prisons, on a effectivement non seulement une majorité d'Afro-Américains, mais une majorité de certains codes postaux. C'est-à-dire qu'on est sur des quartiers très particuliers. Ce qui fait que la violence et le harcèlement policier qui peut mener à la violence, il ne s'exerce pas de manière égale sur l'ensemble de la population afro-américaine. Il y a vraiment une espèce de conjonction de problématiques de poche, de pauvreté dans certains quartiers urbains et de la question raciale. Ce qui n'empêche pas qu'il y a effectivement aussi tout un tas de bavures qui sont faites. Enfin, est-ce que ce sont des bavures ou est-ce que ça fait partie de la culture de la police aussi ? C'est tout un enjeu, tout un débat. Mais en tout cas, une grande majorité de ces personnes, ça ne s'exerce pas de manière complètement égale non plus sur la population afro-américaine, et ça amène du coup à se poser vraiment des questions sur la manière d'envisager de manière générale la gestion de la pauvreté qui touche de manière disproportionnée les minorités raciales aux États-Unis.
Didier Combeau.
Oui, on échoue toujours à expliquer des phénomènes complexes comme la violence et comme le racisme et comme la conjonction de la violence et du racisme par des explications simples. C'est toujours toute une série d'éléments qui se combinent. On parlait de la criminalisation des infractions mineures. On parle de cette guerre contre la drogue c'est tout cela qui se conjugue en quelque sorte. C'est pas simplement le policier blanc qui n'aime pas les Noirs ou qui les considère comme dangereux. Ça, c'est un des éléments d'explication, mais en fait, il y a énormément d'éléments d'explication qui font système, en quelque sorte, et qui créent ce cercle vicieux dont on a parlé.
On va venir dans un instant à cette question de la community policing, qui est disons la police de proximité, on pourrait traduire ça comme ça, plutôt police de quartier, mais on va y venir dans un instant. On parle de culture à l'instant, la culture elle est aussi le fruit d'un certain cadre constitutionnel. C'est vrai qu'évidemment en Europe, nous, on a cette idée que la violence légitime est le monopole de l'État. C'est évidemment Max Weber qui nous apprend tout ça. Sauf qu'aux États-Unis, l'État n'est pas le seul à disposer précisément d'un droit à la violence, puisque n'importe quel citoyen a le droit de porter une arme et, le cas échéant, l'utiliser. Et ça, c'est garanti par la Constitution. En quoi cette caractéristique, Didier Combeau, modifie le rapport des citoyens à leur police ?
Eh bien, dans la mesure où énormément de citoyens sont armés et qu'ils le sont légalement, et la Cour suprême l'a confirmé en 2008 et va d'ailleurs bientôt se saisir d'un autre cas et va certainement le reconfirmer une deuxième fois, il y a énormément d'armes en circulation. Et donc, il y a aussi ce risque pour les policiers de se trouver en face d'une arme. Et donc, c'est aussi un mode de protection de faire preuve d'autant de violence. Lorsqu'on fait des patrouilles avec la police aux États-Unis, ils ont deux préoccupations essentielles, ce sont les armes et la drogue. C'est les deux points sur lesquels ils interviennent beaucoup. Et effectivement, si on prend l'exemple qui a été donné tout à l'heure de Trayvon Martin, ce jeune Afro-Américain qui a été tué par un vigile dans une ville de Floride, alors qu'il circulait dans la rue, il n'avait commis aucune infraction, il était simplement surprenant pour ce vigile qui était hispanique d'ailleurs, qu'il y ait un jeune homme noir qui circule dans les rues de ce quartier, et ce vigile était armé et il a fait usage de son arme.
Est-ce que la Constitution américaine et donc la garantie de porter des armes, d'avoir le droit de porter des armes pour tous les citoyens, Audrey Célestine, est-ce que ça ne produit pas une forme de défiance a priori envers les policiers ?
Alors, je ne sais pas si ça produit une défiance envers les policiers.
Puisque on ne les reconnaît pas comme étant les seuls à avoir le droit à la violence légitime.
Oui, mais je pense que ce serait davantage le cas si la violence policière s'exerçait de manière égale sur tous. On voit qu'elle ne s'exerce pas uniquement, pas exclusivement sur les populations afro-américaines, mais par exemple ce droit à porter une arme qui a été aussi, il y a des travaux sur le 19e qui sont vraiment passionnants et qui montrent la manière dont des Noirs américains vont aussi aller au tribunal pour pouvoir dire « moi aussi j'ai le droit de pouvoir porter cette arme à partir du moment où je deviens un citoyen après la guerre de sécession ». Mais de fait, en pratique, comme tout un ensemble de droits pour les Afro-Américains, en pratique ce droit il est fortement limité. Un Noir qui se balade dans l'espace public avec une arme qui serait visible dans un endroit où c'est possible ne serait pas traité exactement de la même manière qu'un blanc qui ferait qui exercerait ce même droit. Et je pense que pour une partie, et on peut le voir dans les mouvements radicaux comme Black Panther, à un moment il y avait cette idée, bon bah nous on va se balader aussi avec des armes et on va se défendre nous-mêmes, et donc il y a toute cette idée d'autodéfense qui peut exister mais qui est vue comme extrêmement controversée politiquement, alors même qu'elle fait partie d'une forme de culture populaire pour le reste de la population. Et cette espèce de deux poids deux mesures qui est également très présent. Un certain nombre d'Afro-Américains tiennent aussi à leur droit à porter des armes, mais de fait, ce droit à porter une arme engendre un risque plus grand pour eux que pour d'autres. Donc on est face à tout un tas, on a le bon petit citoyen afro-américain qui est en plus grand danger s'il porte une arme, et puis on a effectivement la criminalité qui peut exister dans certains quartiers, mais qui est aussi, elle aussi, alimentée par plusieurs décennies de politiques de reségrégation dans les faits, de politiques de paupérisation, de politiques d'impossibilité d'accès à l'emploi pour une bonne partie des jeunes hommes noirs afro-américains de certains quartiers, et puis par le fait qu'on police même qu'on surveille de manière particulièrement forte les gamins à l'école. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des écoles dans lesquelles il y a la présence policière, et on peut taser un gamin dans l'école parce qu'il refuse de se rendre dans le bureau du principal. Et c'est le fait que dès l'enfance, on modèle ainsi et on force le corps des jeunes hommes noirs qui est aussi au cœur de la mobilisation. Donc ça va beaucoup plus loin que la simple police en tant que telle.
Et justement, compte tenu du fait que ces populations noires aux États-Unis sont plus la cible, sont plus victimes des armes de façon générale et en particulier des bavures policières, est-ce qu'il y a à l'intérieur de la population afro-américaine une proportion plus importante des gens qui sont favorables à une régulation des armes? Ou est-ce que finalement, c'est comme dans le reste de la société et que d'une certaine manière, ils sont, ces Afro-Américains, bien que davantage victimes, aussi américains que les autres, au sens culturel et constitutionnel du terme.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de différences régionales. Je pense que c'est pas la même chose pour les gens qui habitent dans le sud que pour des gens qui habitent dans des quartiers pauvres du nord et pour qui, très concrètement, une telle circulation des armes est un danger pour leur famille, pour le fait de se prendre une balle perdue alors qu'on est chez soi, ce qui est le cas. Voilà, il y a plein d'enfants qui sont morts comme ça. On circule en voiture, on est sur le trottoir. Il y a pas mal de, enfin à Chicago, il y a eu toute une espèce de crise, de fusillade comme ça, et de gamins qui meurent en étant sur le chemin de l'école. Et je pense qu'on n'a pas la même opinion quand on est de la bourgeoisie intellectuelle afro-américaine et qu'on vit à New York et qu'on est probablement contre les armes. Et puis quand on vient d'un milieu peut-être un peu plus rural, suburbain, dans le sud, où ben on considère que oui, c'est effectivement un droit comme un autre.
Et une fracture territoriale. Didier Combeau.
Les sondages montrent que les Afro-Américains sont plus favorables à la réglementation des armes que les Blancs. Cela dit, pour autant, il n'y a pas, à ma connaissance, de groupe, en tout cas de premier plan, de groupe spécifiquement afro-américain pour la réglementation des armes à feu. Donc ça n'est pas un sujet qui, dans les communautés noires, mobilise. C'est plus les communautés blanches aisées qui vont... On l'a vu avec Parkland, par exemple, en Floride. Hein, on l'avait vu avec Columbine. C'est lorsque, finalement, les banlieues plus ou moins aisées et blanches sont touchées par le problème des armes qu'il y a une mobilisation. Et il y a une mobilisation d'ailleurs sur la question des fusillades, alors que l'essentiel des morts par arme à feu, la très grand 97% des morts par arme à feu, ce sont des homicides individuels, ce ne sont pas des fusillades.
Dans votre livre, vous refaites un peu l'histoire des polices urbaines américaines, vous racontez qu'elles apparaissent dans les villes au cours du 19e siècle. Ça se fait par étapes, mais en gros, c'est le milieu du 19e siècle où ça commence à émerger vraiment très fort. Il y a plusieurs étapes, plusieurs mues, justement, dans cette philosophie adoptée par ces polices. Et vous dites que le community policing est souvent vu comme la troisième mue des polices américaines, après celle de la collusion avec les machines politiques, je vous cite, puis celle de la professionnalisation. Community policing, police de quartier, police de proximité. À quel moment intervient cette mue et en quoi est-ce qu'elle permet de diminuer ou non les violences?
Cette mue, elle apparaît après la période des années 90. C'est que dans les années 90, au tout début des années 90, la ville de New York était dans une situation très difficile avec plus de 2000 homicides par an. Et donc, quand Rudolph Giuliani a été élu, il a été élu sur une politique de fermeté en ce qui concerne l'ordre public. Et donc, la police de New York a mis en place des politiques de tolérance zéro avec un très grand nombre de fouilles dans les rues et il y a eu une réaction contre cette politique, d'autant plus que elle était très discriminatoire. Donc un Afro-Américain ou un Hispanique avait beaucoup plus de risques d'être fouillé qu'une personne de race blanche. Et donc il y a eu une réaction à cette ultra-criminalisation. Et la solution qui est proposée, c'est une action beaucoup plus préventive des polices et des liens avec les quartiers qui soient beaucoup plus forts. C'est très difficile à mettre en place. Ça va un petit peu à l'encontre de la culture policière parce que les policiers disent on n'est pas des assistants sociaux, donc ils savent mal comment prendre les choses. Quelquefois, c'est un département particulier dans le département de police, un service particulier qui va s'occuper du community policing, l'ensemble du département ne s'y met pas vraiment, donc c'est très difficile.
C'est plutôt une vision démocrate de la police, disons, on peut le dire comme ça, ou est-ce
oui, que oui, on peut le dire comme ça, oui, mmh. Une vision en tout cas plus progressiste et donc plus démocrate, la vision plus répressive de la tolérance zéro, à grand trait, parce que c'est plus compliqué que ça, mais la vision très répressive est plus une vision conservatrice.
Si on regarde les choses, Audrey Célestine, il y a un certain nombre de villes qui, effectivement, ont adopté un peu cette philosophie et qui ont opéré cette mue vers le community policing. Il y a, par exemple, Chicago, qui a essayé, effectivement, d'adopter cette philosophie. Concrètement, est-ce que ça marche? Est-ce que les citoyens, par exemple, de Chicago collaborent véritablement avec leurs policiers? Et est-ce que ça permet d'obtenir des résultats, un recul clair et net des violences?
Alors, je sais pas si Chicago c'est le meilleur exemple parce qu'il y a quand même beaucoup de,
enfin, je veux dire. Je le prends à dessein.
Oui, c'est ça. Il y a eu à la fois des pressions fortes des mouvements parce que la police de Chicago était quand même considérée comme une police Chicago a dû payer pas mal de sous aux familles pour des abus policiers, pour des violences policières. Enfin, c'est aussi un système qui est coûteux pour un certain nombre de localités. Un procès avait été intenté à la ville de Chicago pour l'ensemble des violences policières par Black Lives Matter. Et là, très récemment, enfin l'année dernière, il y a une acceptation sous la pression des tribunaux pour une espèce de surveillance fédérale de ce qui se passerait au niveau de la ville de Chicago. Je suis pas sûr que ce soit la ville où la confiance citoyen-police soit la plus grande. Dans des endroits comme Baltimore, où c'est aussi une police qui est largement problématique, l'un des revers, c'était les gens de Baltimore disaient après les émeutes de 2015, enfin les policiers, oui, on les connaît, ils nous connaissent, ça les empêche pas de faire de contrôler, de nous fouiller plusieurs fois par jour, alors même qu'ils nous connaissent tout à fait avec des sortes d'échos à la question du contrôle dans notre propre pays.
Ouais, donc ça n'améliore pas la confiance entre les citoyens et les policiers.
Je pense que je connais pas assez la situation dans l'ensemble du pays, mais je pense que les succès sont pas, enfin je n'ai pas en tout cas en tête d'endroits où ça aurait été un succès absolument fantastique.
Ça en dit long, Didier Combeau. Si Audrey Célestine n'a pas d'idée en tête, c'est que, de fait, les résultats sont pas extrêmement probant.
Non, il n'y a pas eu de succès éclatant. C'est une volonté. Je crois que c'est une véritable volonté dans les départements de police. Mais ils ne savent pas par quel bout prendre les choses, en quelque sorte. Et on ne parvient pas à le mettre en place.
Si aujourd'hui il y a une forme de rupture entre les policiers et les citoyens, quand on regarde les choses et qu'on fait un peu d'histoire à nouveau, Didier Combeau, comme vous le faites dans votre livre, on se rend compte que les choses ont été dans l'histoire très différentes. Vous racontez qu'au début, justement, au moment de l'émergence de ces polices urbaines au milieu du XXe siècle, en réalité, les liens étaient extrêmement forts entre les policiers et les populations. Alors, la question de la lutte contre le crime, peut-être, faisait un peu les frais de tout ça, mais les liens étaient beaucoup plus forts.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais effectivement, elles étaient extrêmement corrompues. Elles étaient très liées aux politiques. Donc, les policiers étaient choisis par les politiques locaux, servaient d'agents électoraux réguler le milieu du crime. On parlait beaucoup du vice à l'époque, hein, c'est-à-dire essentiellement prostitution, jeu et débit de boisson. Il les contrôlait plutôt qu'il ne les arrêtait véritablement. Donc il y avait un gros problème de corruption. Il y avait des policiers qui étaient très riches, hein, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les polices ont été professionnalisées et sont devenues. C'était dans
ça, c'est les années quoi, 50-60?
Oh non, les années non, ça a commencé à la fin du 19e siècle.
Oui,
c'était le mouvement progressiste. Les services municipaux se mettent en place à ce moment-là, pas seulement les polices, hein, d'ailleurs. Et les polices deviennent des services administratifs avec des recrutements par concours, beaucoup moins liés aux politiques, tout en étant quand même encore pas mal, mais beaucoup moins corrompus, mais aussi beaucoup plus éloignés des populations.
Ouais, les années 50-60, c'est un moment où on centralise un peu les services et où on enlève un tout petit peu d'autonomie aux polices locales. C'est ça,
je me souviens bien. Oui. C'est un mouvement qui s'est achevé effectivement vers les années 50.
Ça change rien sur les violences, cette question de la centralisation, la mise en place d'une administration fédérale. Pas grand chose,
parce que la police fédérale intervient dans des domaines assez limités tout de même. L'essentiel de la patrouille et donc des accidents et des gens qui sont tués, ce sont les patrouilles locales, ce ne sont pas les polices fédérales.
Audrey Célestine, encore un mot avant d'aller du côté de l'Afrique du Sud?
Oui, je pense que, enfin, pour beaucoup, malgré tout, pour beaucoup de personnes aux États-Unis, il y a cette idée que la police a pour objectif et pour mission le bien commun et la sécurité, et qu'il y a des bavures, qu'il y a des choses, parfois ça ne marche pas bien et du coup il faut effectivement mettre plus de ressources pour que ça puisse aller mieux. Et puis il y a effectivement un certain nombre de militants qui sont des militants assez engagés, assez radicaux, qui disent non mais le problème c'est l'omniprésence policière et le harcèlement quotidien. Et du coup, c'est un problème qui est intrinsèque à l'institution policière elle-même et qui n'est pas uniquement le fait d'un problème qui serait un problème conjoncturel de formation. Et c'est vrai qu'on a ces deux tendances. La tendance qui est plus abolitionniste est largement minoritaire, mais c'est une tendance qui prend quand même un peu de place avec des formes de repositionnement aussi idéologique qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et donc voilà, on n'est pas encore sorti de...
Et est-ce que vous direz qu'en la matière, l'arrivée de Donald Trump a bouleversé les choses?
Bouleversé, je ne pense pas. Je pense qu'elle... Il y avait un contexte qui était peut-être un tout petit peu plus favorable à Black Lives Matter sous Obama. Et puis l'organisation a été largement criminalisée au départ quand Trump est arrivé. C'était une association qui était considérée comme anti-police. C'était de sa faute si des policiers se faisaient tuer, etc. Donc on est quand même dans une période. Et puis il y a une période de manière générale de libération de la parole raciste de manière générale qui touche autant la police que d'autres acteurs de la société américaine.
On est avec vous, Audrey Célestine et Didier Combeau, dans cette semaine consacrée à la police. Mais que fait la police aujourd'hui? La couleur de la répression des États-Unis à l'Afrique du Sud, direction l'Afrique du Sud justement.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Les grévistes se sont dirigés vers les agents de police en leur tirant dessus et en brandissant des armes dangereuses. La police a répliqué de façon systématique et a été obligée d'utiliser la force maximum.
Je ne ferai plus confiance aux forces de l'ordre. La prochaine fois que nous allons manifester pour les services publics, par exemple, ils vont peut-être nous tirer dessus.
Oui, je pense que la police a surréagi. Ce qu'ils ont fait est injuste. Ils auraient dû s'en tenir au gaz lacrymogène et aux balles en caoutchouc, mais jamais utiliser des balles réelles pour tuer des mineurs. Je continue à penser que la situation aurait pu être beaucoup mieux contrôlée, mais c'est trop tard, ce qui est arrivé est arrivé. J'ai l'impression que cela nous ramène quelques années en arrière, cela rappelle à tout le monde les heures sombres du passé.
2012, 34 mineurs grévistes tombent sous les balles de policiers sud-africains. 70 autres sont blessés. La police invoque la légitime défense, mais l'enquête assez rapidement montre qu'on n'était pas dans le cadre de la légitime défense et que les policiers avaient ordonné de tirer sur les mineurs. Et puis par ailleurs, l'enquête avait aussi montré la responsabilité de l'actuel président Cyril Ramaphosa, à l'époque homme d'affaires, qui avait mis la pression pour qu'on soit intransigeant avec ce mouvement social. Bonjour Anne Dissèze.
Bonjour Florian.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, ancienne correspondante en Afrique du Sud pour RFI. Les violences policières de Marikana, est-ce qu'elles sont une exception ou est-ce qu'il y a aujourd'hui encore un problème de violence systémique chez les policiers sud-africains ?
Non, ce niveau de violence, c'était vraiment une exception et c'est un prix politique c'est un prix politique qui se paie encore aujourd'hui. Et comme vous le disiez, le candidat à la présidence, qui est actuellement président, Cyril Ramaphosa, a été impliqué d'une certaine manière dans ces violences. Non pas qu'il ait donné d'ordre ou qu'il se soit impliqué lui-même, mais il y a eu un email qui a été largement diffusé sur les réseaux sociaux quelques années après les événements de Marikana et qui demandait justement la fermeté par rapport à ces grévistes qui ne voulaient pas ni se disperser ni accepter les propositions de la direction.
C'est vraiment cette affaire de Marikana, c'est vraiment une rupture, ça a vraiment provoqué ces violences policières, un émoi extrêmement profond dans la société sud-africaine. Mais est-ce qu'il y a eu des conséquences politiques ? Est-ce qu'on a essayé de réorganiser les forces de police après ce massacre ?
Non, on n'a pas essayé de réorganiser les forces de police après ce massacre. Il y a eu une grande polémique parce que ça a beaucoup marqué politiquement la société sud-africaine à tous les échelons, parce que c'était des images de l'apartheid qui n'avait plus lieu depuis 1994. Les policiers n'étaient pas armés, n'avaient jamais tiré à balles réelles sur des manifestants et particulièrement sur des grévistes de cette mine de platine de l'Omnine. Et donc ça a été l'émergence brutale de journée d'image de l'apartheid, de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Ça n'existait plus. Il y avait eu une grande réforme après 94 de la police et de la même manière de l'armée qui sont faites à peu près
Qu'est-ce qui avait changé à l'époque ? Effectivement, après l'apartheid, on procède à plusieurs réformes. Il y a effectivement 94-2000 oui. Et puis il y en a ensuite dans les années 2000. Qu'est-ce qu'on change à ce moment-là ?
Oui, c'est celle de 94 qui est importante. Celle de le poste 2000 n'était pas très importante. C'était plutôt, elle touchait plutôt une tentative de professionnalisation de la police qui n'a pas vraiment eu d'effet. Non, celle de 94 était très importante. Elle était c'était une réforme qui touchait d'une certaine manière tout le secteur public. C'était la transformation de l'Afrique du Sud et l'émergence de policiers noirs, de noirs dans la fonction publique et de quelle manière ça devait se faire. La police était un petit peu différent. Comme l'armée, il y avait des soldats noirs, il y avait des policiers noirs. Et il y a eu, donc, ça a été un compromis, une discussion, ça s'est fait vraiment au niveau d'une discussion avec l'intégration après 94 de toutes les polices qui existaient en Afrique du Sud, et il y en avait beaucoup. Il y en avait à peu près une dizaine qui étaient des polices des Bantoustans, il y avait 7 Bantoustans, la police du pouvoir blanc d'avant 94, il y avait la police des partis politiques, du Pan African Congress et de l'ANC, il y avait des milices qui s'étaient constituées dans les townships dans les dernières années après 85 jusqu'à la libération, des premières libérations des prisonniers politiques et les négociations en 89. Donc on a intégré tout ça dans des mêmes structures, aussi bien au niveau de la police qu'au niveau de l'armée. Et ensuite, on a formé les gens, on a essayé de former les gens, surtout de les tester pour voir dans quel... La police c'était évidemment une pléthore de policiers, mais qui n'avaient pas tous de l'activité. Et on est arrivé quand même à une police de 120 000, 150 000 aujourd'hui, 120 000 à l'époque, 150 000 aujourd'hui de policiers actifs.
Anissès, vous parliez à l'instant des townships. L'année dernière, il y a eu toute une vague de manifestations dans les townships, dans les quartiers pauvres. Les habitants dénonçaient le manque de services publics, le peu d'attention que leur accordent les autorités. C'est vrai que c'est très fréquent que le pays connaisse de tels accès de violence, ce qu'on appelle là-bas les émeutes pour l'amélioration des services publics. Et il y a même régulièrement, très régulièrement malheureusement, des personnes qui sont tuées dans les affrontements avec la police. Est-ce que ce sont je mets des guillemets, de simples bavures policières, ou est-ce qu'il y a dans la stratégie de la police, plus globalement, une volonté, une stratégie destinée à mater ces populations des quartiers pauvres? Finalement, est-ce que la ségrégation raciale, je vais vous poser la question comme ça, des policiers, a laissé place à une ségrégation sociale, Anne Dicez?
Oui, je pense qu'on pourrait dire plutôt ça. D'ailleurs, c'est au niveau de toute la société que ça se passe comme ça. On est passé d'un racisme institutionnalisé à un racisme par l'argent. Mais oui, mais ceci dit, je pense que c'est beaucoup plus un manque de formation et un manque de professionnalisme des policiers. Et que c'est vrai que c'est une vraie tradition en Afrique du Sud, c'est riot, comme on dit, et qui consiste à lancer des pierres, à ériger des barricades, comme un peu on faisait avant la fin de l'apartheid. Mais la réaction de la police est plus du tout la même. D'abord, avant la fin de l'apartheid, c'était des policiers blancs qui étaient là, et il y avait vraiment des agressions raciales telles que vous les avez décrites un petit peu pour les États-Unis. Mais aujourd'hui, la situation est très différente. Il faut penser aussi que les policiers, ils vivent à côté des gens qui vont contre lesquels ils vont se battre dans ces riots. Et ils sont du même township, enfin pas tellement dans la région de Johannesburg où les townships sont très grands, mais dans les régions provinciales, autour des provinces, quand les townships sont petits autour des moyennes villes et qu'ils ont à intervenir. Et il y a beaucoup de riots dans ces régions-là.
Oui, donc il y a des liens entre les policiers en réalité et ces populations pauvres.
Voilà,
c'est ça que vous voulez dire.
Voilà, ils sont au milieu de chez, ils sont devant chez eux, au milieu d'eux, au milieu de leurs amis, etc. Pour intervenir. Donc je pense pas qu'il y ait ce chose-là. Moi, je crois que c'est plutôt, quand il y a des morts, c'est plutôt un manque de professionnalisme des policiers, mais il n'y a pas une volonté de tuer.
Problème de formation. Didier Combeau, Audrey Célestine, dernière réaction, on arrive presque au terme de cette émission, je vous en prie. Didier Combeau.
Oui, vous parliez de...
On entend que, par exemple, Anne Dicez nous dit le problème essentiel, c'est celui de la formation, par exemple.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est vraiment un aspect primordial. Et aux États-Unis, on se pose aussi d'ailleurs la question de la formation des policiers à la gestion des troubles psychiatriques, parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans les rues, qui ont des troubles psychiatriques, mais qui ne sont pas dans des institutions. Et beaucoup de ces gens-là sont tués par la police, et donc c'est un des enjeux.
Audrey Célestine.
L'un des problèmes, c'est aussi qu'on voit que dans certains quartiers, quand il y a eu une bavure policière ou quelqu'un de tué par la police, les gens n'appellent plus la police dans les semaines qui suivent. Ils préfèrent ne pas appeler la police quand quelqu'un fait une crise psychotique, par exemple. On dit surtout n'appelez pas la police, il risque de se faire tuer. Ce qui, en fait, a pour effet d'augmenter l'insécurité, parce que du coup, on veut moins que la police intervienne pour éviter que quelqu'un qui n'a rien fait se fasse tuer. Ce qui fait que le problème devient encore plus important.
Sans compter qu'on ne sait même pas si elle vient. Et si elle vient, combien de temps elle mettra aux États-Unis un mot qui dit commander une pizza ou appeler la police et vous voyez qui va arriver le premier. Non, mais c'est je crois que c'est un proverbe qu'on dit aux États-Unis. Enfin,
oui,
un mot
qu'on dit. Voilà. C'est quelque chose qu'on dit aux États-Unis, voilà. et qui va dans le sens de l'autodéfense également.
Merci beaucoup, en tout cas, Anne Dicez, qui était avec nous. Je rappellerai que vous êtes auteur notamment de Afrique du Sud, Enjeux de la nation arc-en-ciel, qui était paru chez Acoria en 2010. Merci infiniment à vous. The views expressed on this recording are solely those of the artists, and by no means do we encourage or condone violence against law officials. It's for you. It's for you. Yeah, it's for my street niggas. Feel it. On the count of three, say fuck the police. Voilà, c'est on ne peut plus clair. Fuck the police. G. Dilla, je connaissais pas. C'est un morceau qui a été trouvé par Benjamin Hu. Merci beaucoup à nos deux invités, Audrey Célestine, d'avoir été avec nous ce matin, et vous également, Didier Combeau. Je rappellerai pour les auditeurs un livre vraiment extrêmement intéressant. J'ai lu ça hier avec beaucoup d'attention. Police américaine au pluriel, qui était paru chez Gallimard, pour les auditeurs qui veulent mieux comprendre les polices aux États-Unis, parce que, en fait, il y en a une grande palette. Voilà, c'était paru chez Gallimard l'année dernière. Merci beaucoup à tous les deux. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couture. Son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous nous parlez de mots MOTS aujourd'hui. La guerre des idées passe par des batailles pour le contrôle du langage, pour le sens à donner aux mots, disiez-vous hier. Mais cela implique aussi la création de sigles, de slogans.
Eh oui, prenez le label Alt-Right. Voilà une formidable trouvaille dont le créateur Richard Spencer est un militant américain d'extrême droite. Il se définit lui-même comme un identitaire blanc. Il a lancé en 2009 un site internet baptisé Alternative Right, en abrégé, tellement plus chic, Alt-Right. Selon l'idéologie du moment, on le sait, tout ce qui est alternatif est connoté positivement. Sa droite, à lui, Richard Spencer, n'a plus rien à voir avec le bon vieux conservatisme du Parti républicain. Elle est fâcheusement extrémiste et même franchement fasciste, selon Jason Stanley que je citais hier. Mais devenue alt-right, cette droite alternative bénéficie d'une réelle respectabilité et c'est bien le but recherché. L'usage d'une abréviation alt pour alternatif ajoute une touche de glamour supplémentaire. Il renvoie en effet au rock alternatif, un label apparu en 1979 pour caractériser les courants issus du punk et bientôt rebaptisé alt rock dans le monde anglo-saxon. Dans les années 80 sont apparus par ailleurs les alternative comedies, assez proches de notre café-théâtre mêlant sketchs de cabaret et improvisation. Et puis il y a bien sûr la touche Alt pour Alternate de nos claviers d'ordinateur qui donne accès à des fonctions alternatives. Bref, l'Alt, c'est chouette. Ça s'inscrit dans la tendance de toutes ces alternatives séduisantes proposées en remplacement d'une réalité forcément décevante comme l'autre économie, l'autre mondialisation et les médias alternatifs. Alors pourquoi pas la droite autre, l'Alt-Right ? Donald Trump a surfé sur ses nouveautés langagières avant d'être politique. La respectabilité, poursuit Jason Stanley, c'est ce que poursuivent les nouvelles extrêmes droites qui sont en train de bousculer la scène politique dans la plupart de nos vieilles démocraties fatiguées de leur liberté. En réalité, le nouveau fascisme a deux fers au feu comme l'ancien. D'un côté, la violence et le désordre qui ébranle l'ordre démocratique et de l'autre, une promesse d'ordre. Je cite Jason Stanley. La violence fasciste dans la rue et les mouvements politiques fascistes se renforcent mutuellement pour la simple raison que les partis fascistes ont besoin de cette violence afin d'apparaître comme pacificateurs. Sans la violence dans laquelle s'engagent certains fascistes, il manquerait aux partis fascistes ce qui leur permet de se différencier de leurs franges les plus extrêmes et ils ne pourraient pas se positionner en garant de l'ordre. Mais cela n'est pas très nouveau. Les mouvements fascistes des années 20 et 30 suivaient la même stratégie, encourager le désordre et la violence dans les rues afin de susciter un désir d'ordre, expliquer que la démocratie libérale est un régime faible, mais qu'eux-mêmes sauront rétablir la sécurité publique par des moyens musclés. Ce qui est beaucoup plus nouveau et que pointe Jason Stanley, c'est l'exploitation qui est faite par les nouvelles extrêmes droites du catastrophisme environnemental. Dans un avenir proche, prophétisent ces intellectuels, les ressources vont devenir rares, des populations entières vont fuir les calamités naturelles, seuls les peuples forts, les nations compétitives et sans scrupules passeront le test de la sélection naturelle. Car le fascisme a toujours eu partie liée avec le darwinisme social et sa morale impitoyable. Mais là où l'idéologie libertarienne pratique le culte du gagnant individuel censé prouver sa supériorité par ses victoires, le fascisme transpose cette idéologie au niveau des nations ou des groupes ethniques. Le problème, c'est que l'idéologue de Donald Trump a été envoyé en mission en terre européenne pour convertir nos concitoyens aux thèses de l'alt-right. Steve Bannon tente depuis plusieurs semaines de fédérer les populistes de toute l'Union européenne. Il ne cache pas que les extrêmes droites européennes sont si diverses qu'il éprouve bien des difficultés à tenter de les fédérer. Mais il a rencontré Orban en tête à tête et puis Salvini est très partant. Mais, par exemple, les démocrates de Suède, beaucoup moins.
Alors, que vient faire Steve Bannon en Europe? Quel est l'objectif?
Il ne s'en cache pas. Il veut créer, en Union européenne, une force politique eurosceptique suffisamment puissante, structurée et unifiée pour conquérir le tiers des siège au Parlement européen en mai. Une sorte de minorité de blocage, a-t-il expliqué au site Politico. Avec son mouvement, il compte fournir, je cite, « l'infrastructure de la victoire, comprenant une section statistique et analyse de données, les moyens techniques pour créer un centre de crise et de riposte rapide, bref, les méthodes mêmes qui ont permis à Donald Trump de réussir son OPA sur le Parti républicain, puis de conquérir la présidence des États-Unis. » Son bras droit à Bannon, l'avocat belge Michael Modricamen, fait ce constat. « L'insurrection populiste est mondiale. Notre mouvement va être mondial. Nous devons l'organiser au plan mondial. » Bref, une sorte d'international alt-right. Et Steve Bannon voit l'opportunité en Europe d'aller au-delà. Il a dit récemment vouloir tenter, je cite, de réunir les populistes de gauche et les nationalistes de droite.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.